Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI midi.
L'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour. Le risque d'embrasement à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. New Delhi a lancé des missiles, parle d'une action ciblée. Islamabad dénonce un acte de guerre et a riposté. Au Cachemire, les civils s'attendent au pire. À l'étranger.
Nous vivions déjà dans la peur des affrontements ces derniers jours. Quand notre armée, l'armée indienne, est intervenue à partir de 1h du matin, nous avons été saisis par la terreur. Ce que nous avons vécu cette nuit-là, nous ne l'avions jamais vu de notre vie. Nous allons devoir maintenant vivre avec cette peur de la guerre.
À l'étranger, les appels à la retenue se suivent et se ressemblent pour tenter d'empêcher l'escalade entre les deux puissances nucléaires. Pas de téléphone, pas de contact avec l'extérieur. Les cardinaux à l'isolement à partir de cet après-midi pour le conclave, pour choisir un nouveau pape. Élection unique au monde. On sera à Rome où la pression monte. Un cessez-le-feu en mer Rouge annoncé entre les États-Unis et les Houthis pour laisser passer les navires, mais pas les bateaux israéliens, selon les rebelles du Yémen. Décryptage dans un petit instant. À suivre aussi, c'est une tradition. Élu dans la douleur hier, le tout nouveau chancelier Friedrich Merz est à Paris. Objectif, relancer le moteur franco-allemand. Autre visite qui fait grincer des dents, le président syrien Ahmed el-Shara, reçu à l'Elysée cet après-midi. L'occasion de faire passer des messages, notamment pour la protection des civils, assure Paris. Et puis le Parc des Princes s'apprête à bouillir ce soir. Demi-finale à retour de la Ligue des Champions. Le PSG espère bien continuer sur sa lancée face à Arsenal et rejoindre l'Inter Milan en finale.
Le feu couvait après la guerre des mots entre l'Inde et le Pakistan. C'est la crise la plus violente entre les deux voisins depuis 20 ans.
Avec des frappes de missiles indiens donc la nuit dernière sur le sol pakistanais. Des tirs d'artillerie ont ensuite éclaté de part et d'autre du Cachemire. Bilan encore provisoire. 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. Cela fait suite à l'attaque meurtrière au Cachemire indien le 22 avril attribuée au Pakistan par New Delhi. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Après les frappes de ces dernières heures, le Pakistan a fait savoir qu'il répondrait à ce qu'il qualifie d'acte de guerre.
Oui, c'est ce qu'indique le comité de sécurité nationale qui s'est réuni ce mercredi à Islamabad. Le Pakistan se réserve le droit de répondre à l'Inde au moment, à l'endroit et de la façon qu'il le souhaitera. Les autorités pakistanaises demandent à l'armée de prendre donc les mesures nécessaires pour, je cite, « venger la perte des vies innocentes et cette violation flagrante de notre souveraineté ». Déclaration qui fait suite à la confrontation militaire la plus grave depuis des années dans la région. L'Inde ayant lancé ce qu'elle a baptisé l'opération Sindor, une série de frappes sur le territoire pakistanais visant, selon New Delhi, des camps de recrutement et d'entraînement terroristes. L'Inde assure que les cibles ont été choisies pour éviter tout dommage aux civils, ce que réfute le Pakistan. Après cette série de tirs, des échanges d'artillerie ont éclaté tout le long de la frontière contestée du Cachemire, bien sûr, qui est de nouveau au cœur de ces affrontements. Outre le bilan humain, le Pakistan affirme avoir abattu 5 avions indiens, dont 3 rafales, information qui n'a pour le moment pas été confirmée du côté indien. Une certitude, il s'agit des affrontements les plus violents depuis la dernière guerre entre les deux pays qui a éclaté en 1999. Et rien ne laisse présager pour le moment, en tout cas, qu'un apaisement puisse être envisagé.
Daniel Valo, et parallèlement, il y a une autre guerre qui se joue, c'est celle de l'eau. Les bombardements ont aussi endommagé un barrage hydroélectrique qui sert à produire de l'électricité au Cachemire et c'est un édifice stratégique pour le Pakistan, Anne Verdaghe.
Le Premier ministre indien a annoncé mardi soir son intention de couper l'eau des fleuves qui irriguent le Pakistan et a suspendu sa participation au traité de partage des eaux de l'Indus, du nom du fleuve qui irrigue 65% du territoire pakistanais, notamment les vastes plaines fertiles du Pendjab. Gilles Bokera, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Tous les fleuves qui traversent le Pakistan, presque tous, viennent d'Inde. C'est pour ça que le traité du partage des eaux de l'Indus était aussi important et avait survécu au conflit armé entre les deux pays. Là, c'est donc complètement remis en cause, notamment du côté indien, qui s'estimait lésé sur les rivières qui sont au nord, donc les fleuves au nord. pour le Pakistan, c'est une artère vitale. L'Indus et ses affluents qui irriguent le Punjab, notamment, qui est le premier céréal avec le fameux riz basmati du Pakistan, une source alimentaire importante, une source à l'exportation aussi pour le pays.
Si l'Inde réduit ou coupe, comme elle l'a menacé, le volume d'eau vers le Pakistan, cela pourrait constituer un point de basculement et la fin du traité de l'Indus, si elle est entérinée, ferait rentrer les deux pays dans une nouvelle ère de grande incertitude.
Et des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie, la Turquie, l'Afghanistan, la Grande-Bretagne ou encore la France, les appels à la retenue et à la désescalade se multiplient.
Un cessez-le-feu en revanche entre les États-Unis et les Houthis.
Annonce d'Oman qui a mené la médiation après plusieurs semaines d'intenses frappes américaines contre les rebelles du Yémen. Cet accord devrait permettre une liberté de navigation en mer Rouge pour la fluidité du commerce maritime international, je cite. Mais parallèlement à ce cessez-le-feu, Israël, de son côté, a mené de nouvelles frappes au Yémen qui ont complètement détruit l'aéroport de la capitale Sanaa. Bonjour Alice Rossard.
Bonjour.
Les Houthis ont promis de riposter. L'annonce de ce cessez-le-feu a donc de quoi surprendre.
Oui, car elle intervient dans une séquence marquée par une reprise directe des hostilités. D'abord avec les États-Unis qui continuaient de bombarder le Yémen depuis 6 semaines. Ensuite avec l'escalade toute récente face à Israël. L'annonce de cessez-le-feu n'était donc pas totalement attendue, explique Laurent Bonnefoy. Il est chercheur CNRS au Centre de recherche internationale de Sciences Po.
Elle montre le caractère assez erratique de la politique menée par Donald Trump, qui, dans le dossier yéménite comme dans d'autres, ne sait pas exactement où elle va. Et une fois cette surprise passée, donc il convient d'analyser ce qui a pu se produire. Premièrement, c'est probablement la prise en compte du caractère assez inefficace des bombardements menés par les États-Unis depuis 6 mois.
Et la deuxième raison est plus contextuelle, liée à la visite de Donald Trump dans la région, notamment en Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman, le prince héritier, aurait pu demander cette faveur car la présence du locataire de la Maison Blanche sur le sol saoudien pourrait, sans cesser le feu, faire l'objet d'attaques de la part des Houthis. Mais il est encore tôt pour se réjouir car cet accord semble extrêmement fragile. Les houthistes n'ont pas commenté les déclarations de Donald Trump. Ils n'ont pas non plus annoncé qu'ils arrêtaient de viser Israël, ni leur navire en mer Rouge, poursuit le spécialiste de la péninsule arabique.
La communication des Houthis, elle est donc à la fois très, très évasive là-dessus, mais elle est aussi toujours très offensive quand il s'agit de montrer qu'ils sont les seuls à réellement s'engager sur le plan militaire en défense des Gazaouis et des Palestiniens en général.
Et il serait naïf de croire que cette entente est déconnectée des négociations avec l'Iran. L'accord annoncé hier pourrait stimuler ces pourparlers.
Et on aura l'occasion d'en parler davantage pour essayer de comprendre ce qui se joue autour de cet accord avec notre invité tout à l'heure, Quentin Muller, journaliste indépendant, spécialiste du Yémen et de la péninsule arabique.
Israël également sur le front libanais. Un commandant du Hamas a été tué dans une frappe de l'État hébreu, selon l'organisation islamiste palestinienne. Ce responsable, Khaled Ahmad al-Ahmad, a été visé à Saïda, c'est dans le sud du Liban.
Le nouveau chancelier allemand à l'Élysée.
Au lendemain de son élection dans la douleur, Friedrich Merz est en déplacement effectivement à Paris. C'est une tradition. Il a rencontré le président Emmanuel Macron. Anastasia Becchio, on vous retrouve en direct de l'Élysée. Vous avez suivi les discours. Les deux dirigeants, c'est ça, veulent relancer le moteur franco-allemand.
Oui, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont affiché leur bonne entente, poignée de main appuyée, accolade, devant la presse il y a quelques minutes. Ils ont insisté sur la nécessité de relancer ce moteur franco-allemand dans un monde de plus en plus instable. Il s'agit donc d'accélérer le rapprochement avec une série de groupes de travail qui seront mis en œuvre très rapidement pour accroître notamment la sécurité ou encore la compétitivité. Parmi les dossiers prioritaires, l'Ukraine, elle peut compter sur la France et l'Allemagne, a dit le chancelier, qui envisage d'ailleurs de s'y rendre prochainement et qui souhaite que les deux pays puissent participer au suivi du cessez-le-feu quand il aura lieu, tout en donnant des garanties de sécurité robustes à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Emmanuel Macron a annoncé que l'Allemagne et la France allaient mettre en place un conseil de défense et de sécurité. Nous voulons répondre ensemble aux défis que l'Europe affronte, a dit le président français aux côtés du chancelier allemand. Friedrich Merz a souligné qu'il souhaitait parler avec la France et le Royaume-Uni de dissuasion nucléaire, mais il insiste, la question du parapluie nucléaire doit se faire d'abord avec l'OTAN. Il considère aussi que l'Europe ne peut se passer du soutien américain dans la guerre en Ukraine. Le rapprochement franco-allemand est donc bien sur les rails, même si des désaccords persistent. C'est le cas de l'accord commercial de libre-échange avec le Mercosur que la France ne souhaite pas adopter en l'état. Le chancelier allemand lui insiste pour qu'il soit ratifié rapidement.
Anastasia Becchio, vous le disiez, les deux dirigeants ont affiché leur unité pour soutenir l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky lui appelle de nouveau à faire davantage pression sur la Russie, sachant que Moscou et Kiev ont échangé de nouvelles salves de frappes de drones. La nuit dernière, deux personnes ont été tuées dans la capitale ukrainienne. À Moscou, les activités ont été perturbées dans les principaux aéroports, vols retardés ou annulés. Le Kremlin dit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité pour les célébrations du 9 mai qui commémore la victoire sur l'Allemagne nazie. Et parmi ces mesures, un accès limité à Internet.
Le chancelier allemand est donc à l'Elysée et un peu plus tard cet après-midi, ce sera au tour du président syrien.
Le premier déplacement en Europe d'Ahmed El-Shara depuis sa prise de pouvoir. Certains responsables à droite et à l'extrême droite sont vent debout contre cette invitation en France, compte tenu du passé djihadiste du dirigeant syrien. Selon le gouvernement français, ce sera justement l'occasion de faire passer des messages pour protéger tous les civils en Syrie. Et il sera aussi question d'économie et de sanctions, c'est ce que souligne Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS.
Il va falloir comprendre que l'agenda des Syriens, pour le moment, c'est qu'ils veulent une relance économique du pays. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment une attente politique à l'intérieur de la Syrie, comme nous, entre guillemets, entre acteurs occidentaux, observons ce nouveau régime en Syrie, mais il y a vraiment une attente des Syriens sur la relance économique. Et c'est probablement là-dessus que vont porter la majorité des discussions. Il y aura bien évidemment du coup une déception pour ceux qui attendent que le sujet principal soit la forme du gouvernement, soit la composition du gouvernement actuel en Syrie, soit le sort des minorités. Ça ne veut pas dire qu'on va les oublier, ça veut dire qu'on va essayer d'écouter aussi les demandes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les minorités ont subi récemment, subissent actuellement, il ne faut pas l'oublier, j'insiste, mais en même temps, elles subissent aussi la crise économique que subissent l'ensemble des Syriens. C'est vraiment le sujet qui va être abordé.
Analyse de Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS, alors que le président syrien est bien arrivé en France. Paris qui dit agir par ailleurs sans relâche pour faire libérer Cécile Kohler et Jacques Paris, c'est ce qu'écrit le président Macron. Ces deux Français considérés comme des otages d'État en Iran, emprisonnés depuis 3 ans, jour pour jour. La sœur de Cécile Kohler, Noémie Kohler, alerte sur notre antenne sur le moral des détenus. Entretien avec Arnaud Pontus à retrouver sur RFI.fr.
Il est 14h12 à Rome où va démarrer le processus d'élection du nouveau pape.
Scrutin sans candidat, ni campagne, ni délai fixé. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Les 133 cardinaux électeurs ont participé à une messe ce matin avant de se retrouver tout à l'heure à la chapelle Sixtine. Nicolas Rocca, on vous retrouve en direct de Rome. Lors de cette messe tout à l'heure, le doyen des cardinaux a appelé à élire un pape qui saura préserver l'unité de l'Église et éveiller les consciences, moment très solennel, suivi par des pèlerins, des fidèles depuis la place Saint-Pierre. Quelle est l'ambiance sur place ?
Alors les abords du Vatican continuent de se remplir petit à petit, un peu plus de 2 heures avant l'ouverture à proprement parler du conclave. Pour la première fumée, il faudra attendre le début de soirée. Ce matin, une foule importante était déjà présente pour la messe. Parmi elles, Delphine, une Française venue avec des amis de sa paroisse. Ils ont vécu ce moment sur la place Saint-Pierre.
On est ici pour faire un pèlerinage justement à Rome. À la base, on l'avait préparé pour pouvoir être à l'audience papale. Notre pape nous a quittés, mais du coup, on a la chance de pouvoir aussi être là pendant l'ouverture du conclave. Donc, c'est une chance.
Et comment vous avez vécu cette messe ?
Riche en émotions.
Ortiz, une étudiante brésilienne, est aussi une fervente catholique, mais elle était un peu plus loin derrière les barrières.
C'est beau de voir les cardinaux vêtus de rouge sortir de l'église tous ensemble. C'est vraiment une vue magnifique. J'espérais la voir de plus proche, mais c'est super d'avoir les écrans géants pour les voir. Je m'envole pour le Brésil lundi, donc j'espère que le conclave se terminera avant pour pouvoir assister au moment où le pape sera choisi.
Traditionnellement, la première fumée est noire. Le premier vote donne surtout une tendance, fait émerger des candidats. Ensuite, les cardinaux seront de retour pour dîner à la résidence Sainte-Marthe. Un repas sobre, mais on l'imagine aussi au menu des discussions pour dessiner le profil de celui qui sortira pape de ce conclave.
Élection qu'on suivra avec vous, Nicolas Rocca, et nos envoyés spéciaux également sur RFI.fr. Et avant que les cardinaux ne soient à l'isolement dans la chapelle Sixtine, vous avez rencontré l'archevêque d'Alger, Monseigneur Jean-Paul Vesco, qui vous a raconté ses impressions avant son premier premier conclave. Il sera l'invité d'Afrique Midi dans environ un quart d'heure. Le décès de l'écrivain Angelo Rinaldi, également critique littéraire, parfois acerbe, membre de l'Académie française. Angelo Rinaldi, né en Corse, prix Femina 1971 pour son livre La Maison des Atlantes. Il avait 84 ans, mais la devise dit aussi Anne Cantner que les académiciens sont immortels.
Merci Charlotte Hidraka, tout à l'heure. 14h15 à Paris, on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Eric Mamrute.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Ça y est, le micro est ouvert, tout le monde est prêt. On va parler de la Ligue des Champions, du foot évidemment. Objectif final ce soir pour le Paris Saint-Germain opposé à Arsenal au Parc des Princes.
Et pour atteindre 5 ans après la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, le PSG devra préserver son avantage du match aller. Cette victoire 1-0 décrochée à Londres il y a 8 jours, c'est Ousmane Dembélé qui avait marqué avant sa sortie sur blessure en seconde période. L'attaquant français touché à la cuisse est longtemps incertain pour ce match retour finalement. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette saison sera bien là ce soir. Un atout non négligeable selon son coéquipier marocain Achraf Hakimi.
On a déjà tout dit sur Ousmane. Je pense que c'est un joueur différent. Tout le monde le voit quand il est sur le terrain. Un joueur qui vous donne envie d'aller au stade parce qu'il fait des différences énormes. C'est un génie avec le ballon qui peut changer le cours d'un match. Il ne lui faut pas grand-chose. Ça peut arriver en un clin d'œil. Donc nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe.
Achraf Hakimi au micro de Cédric de Oliveira. Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta enregistre le retour de son roc ghanéen du milieu de terrain, Thomas Partey, suspendu au match aller. L'entraîneur des Gunners bien conscient de la nécessité de réaliser un grand match ce soir pour espérer retrouver 19 ans après la finale de la Ligue des Champions. Écoutez Mikel Arteta.
Pour être en finale de la Ligue des Champions, il faut faire quelque chose d'exceptionnel tout au long du tournoi. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais à Paris, contre cette équipe, il faudra relever le niveau pour entrer dans l'histoire. Nous savons ce que nous pouvons faire. Nous l'avons montré à l'aller, à de nombreuses reprises, à l'exception des 15 premières minutes où nous avons eu quelques difficultés. Comme je l'ai dit, on saura ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et à quel point on doit profiter de ce moment pour tirer le meilleur de nous-mêmes. We have to embrace and enjoy this
moment to get the best out of ourselves. PSG Arsenal, demi-finale retour de la Ligue des Champions, ce sera à suivre en intégralité ce soir sur RFI, prise d'antenne à 18h50, temps universel.
Et le vainqueur de cette seconde demi-finale affrontera le 31 mai l'Inter Milan, qualifié hier face au FC Barcelone à l'issue d'un match d'anthologie.
Le match aller conclu sur le score de 3 buts partout en Catalogne avait déjà atteint des sommets, que dire du retour au scénario totalement invraisemblable. Hier à Milan, l'Inter mène rapidement 2-0, le Barça parvient à égaliser et même à repasser devant. 3 buts à 2 à la 87e minute, mais les interistes, loin d'être KO, égalisent dans le temps additionnel, puis marquent le but de la qualification dans la prolongation. Score final 4-3 pour l'Inter Milan, qui après avoir terrassé le Bayern Munich en quart de finale, s'offre le scalp du Barça de Lamine Yamal, de quoi savourer à l'image de l'entraîneur interiste Simone Inzaghi.
Mes joueurs ont été extraordinaires ce soir. Ça a été un match extrêmement difficile face à une équipe de classe mondiale comme contre le Bayern Munich. Nous avons joué 4 excellents matchs et c'était la seule façon pour nous d'atteindre la finale. Peu de gens croyaient en nous pour aller aussi loin et maintenant nous sommes très fiers pour nos supporters. Ils n'ont jamais laissé un siège vide à San Siro et nous voulions partager cette belle soirée avec eux. Mes félicitations aussi au FC Barcelone qui a joué 2 grands matchs.
L'Inter Milan qui retrouve 2 ans après la finale de la Ligue des Champions, elle se disputera donc le 31 mai à Munich.
Une soirée décidément bien difficile pour Barcelone, également éliminée hier soir de l'Euroleague de basket.
Le Barça a été privé de Final Four par Monaco, le club de la Principauté, vainqueur à domicile du match 5 de la série sur le score de 85-84. Les Monégasques retrouvent ainsi 2 ans après le dernier carré de l'Euroleague. Ils y retrouveront le même adversaire qui les avait alors battu, l'Olympiakos Le Pirée. L'autre demi-finale opposera un autre club grec, le Panathinaikos, au Turc de Fenerbahçe.
Eric Mamrute pour l'actualité sportive.
RFI. Le Monde à midi.
On va revenir maintenant sur une annonce, un accord qu'on n'avait pas vraiment vu venir entre les États-Unis et les Houthis du Yémen. Bonjour Quentin Müller.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, auteur du livre « L'arbre et la tempête, Socotra, l'île oubliée » qui a été publié aux éditions Marchiali. D'abord, est-ce qu'on sait un peu ce que contient cet accord ? Est-ce qu'on a quelques détails ?
Oui, le ministre des Affaires étrangères, Oumanet, a détaillé donc cet accord de cessez-le-feu qui prévoit que les Américains cessent leur bombardement sur les Houthis, en échange de quoi les Houthis arrêteront de frapper les navires américains en mer Rouge ainsi que les positions militaires dans la zone.
Comment est-ce que vous interprétez le fait que cet accord soit annoncé au moment où Israël intensifie ses frappes contre les Houthis et quelques jours tout juste après un tir Houthi tout près de l'aéroport de Tel Aviv où il y avait vraiment un regain de tension?
Oui, les Américains ont dépensé beaucoup d'argent dans ce mois de bombardement sur les Houthis, à tel point qu'on a dépassé le milliard de dollars d'investissement. Or, on sait que l'administration Trump est dominé aujourd'hui par les MAGA qui considèrent que être le gendarme du monde aujourd'hui n'est plus le rôle des États-Unis et que donc il faut cesser ces investissements américains et donc que cela ne pouvait plus durer. Et puis par ailleurs, plusieurs chefs militaires américains ont alerté l'administration Trump en leur disant que les munitions allaient commencer à manquer. Or, les Américains ont besoin de ces munitions pour dans sa guerre un peu larvée avec la Chine. Donc, l'appareil militaire américain allait commencer à être mis en danger par ce manque de munitions. Et puis, les Houthis ont aussi abattu plusieurs drones américains qui coûtaient plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ça a commencé à faire beaucoup pour Washington.
Quentin Muller, on va faire une petite pause parce qu'on vous entend vraiment très mal. Donc on vous laisse, on essaie de vous rappeler sur WhatsApp. J'espère qu'on vous retrouve dans quelques instants avec une ligne de meilleure qualité, ce qui permettra à nos auditeurs de mieux vous entendre et de mieux comprendre donc ce que vous nous expliquez sur cet accord qui a été annoncé hier par le médiateur Oumanet, accord entre les États-Unis et les rebelles houthis du Yémen, vous nous le disiez, plus de bombardements américains en échange d'une cessation des tirs en mer Rouge. On parlait de ce que ça signifiait comme investissement pour les États-Unis. D'après ce que j'ai compris, le chef politique des Houthis n'a pas réagi, lui, à l'annonce de cet accord. En revanche, il a menacé d'une riposte dite foudroyante contre Israël. A priori, Israël pas prévenu de la signature de cet accord, ça vous étonne ?
Alors, Israël, effectivement, n'est pas dans la balance de cet accord et les Américains, en fait, ont décidé unilatéralement de mettre fin à leur bombardement contre les Houthis en échange de ce pacte de non-agression parce que ça coûtait aussi beaucoup d'argent à l'administration américaine. Ils ont dépassé le milliard de dollars en termes de bombardement sur les Houthis et ils commençaient à manquer de munitions dans leur guerre larvée contre la Chine. Donc il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, plusieurs membres de l'administration Trump qui sont des MAGA et qui considèrent que les Américains n'ont plus à être le gendarme du monde. Donc, de toute façon, ces offensives américaines étaient vouées à être éphémères et à ne pas durer. Et puis sachant aussi que la coalition, l'ancienne coalition qui était intervenue au Yémen contre les Houthis, donc l'Arabie Saoudite et les Émirats, ont déclaré qu'ils ne reprendraient pas leurs engagements militaires au Yémen. Donc finalement, on voit bien que ces attaques américaines contre les Houthis avaient juste pour but de pacifier la mer Rouge et que les bateaux américains ne soient plus pris pour cible.
Donc c'est possible qu'Israël n'ait pas été mentionné.
Oui, Israël n'a pas été mentionné. D'ailleurs, Donald Trump a réagi quand on lui a posé la question de savoir si Israël allait continuer ses bombardements sur les Houthis. Donald Trump a répondu que ça ne regardait plus les États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a également une volonté de la part des Houthis de continuer leur guerre contre Israël tant que le peuple palestinien à Gaza continuerait de souffrir des massacres commis par Israël.
Est-ce que selon vous, il faut voir dans cet accord annoncé hier un lien avec les négociations que les États-Unis ont engagées avec l'Iran il y a quelques semaines, puisque l'Iran est un des parrains des Houthis?
Oui, tout ça est très lié. En fait, les négociations sur le nucléaire ont pour l'instant des chances d'aboutir parce que les deux parties arrivent à discuter toujours d'ailleurs à Oman. Et donc, l'Iran étant, vous l'avez dit, un partenaire important des Houthis, alors un parrain, je dirais pas, parce que l'Iran ne contrôle pas, je dirais, les Houthis comme l'Iran pourrait avoir plus d'influence sur le Hezbollah. Là, pour le coup, l'Iran ne peut pas donner d'ordre à Sanaa. Mais par contre, le fait que les Américains aient scellé ce pacte de non-agression avec les Houthis fait que ça va faciliter les négociations sur le nucléaire. Et inversement, je veux dire, ça peut faciliter aussi un accord pour que les Iraniens obtiennent une levée des sanctions économiques de la part des Américains. Donc ça va dans ce sens-là, oui.
Comment, il nous reste très peu de temps, mais j'aurais voulu vous entendre sur les moyens qui restent aujourd'hui et outils qui ont quand même fait l'objet de nombreux bombardements de tirs, d'abord de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, par les Américains, par les Israéliens. Quel est l'état des forces aujourd'hui ?
Parler de l'état des forces aujourd'hui, quand Israël bombarde l'aéroport de Sanaa, Israël bombarde une centrale électrique à Amran, Israël bombarde une université, ça n'aurait pas beaucoup de sens parce qu'aujourd'hui, on le voit en fait, c'est avant tout la population yéménite qui souffre de ces bombardements parce que quand on bombarde une centrale électrique, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité dans toute une région. Les hôpitaux, les rares hôpitaux qui existent encore dépendent de cette électricité et donc là vont dépendre de générateurs électriques extrêmement coûteux. Il y a plus de ventilation, il y a pas un accès à l'eau, il y a une aide humanitaire qui a fortement décru du fait de l'arrêt de l'USAID américaine. Donc les Houthis, eux, ils ont leur propre agenda, mais c'est surtout la population
qui subit les effets de cette guerre. Merci Quentin Muller, journaliste indépendant, d'avoir été en ligne avec nous. Reportage à présent qui nous ramène un peu plus d'un an en arrière, en pleine mer Méditerranée. Le 13 mars, aux alentours de midi, le bateau Ocean Viking découvre par hasard un canot pneumatique à la dérive depuis 7 jours, 24 personnes à bord. On a appris plus tard que 65 étaient déjà mortes. 65 qui auraient peut-être pu être sauvées si les gardes-côtes italiens et l'agence européenne Frontex étaient intervenus. Notre correspondante Cécile Debarge a pu retrouver des survivants.
C'est la deuxième nuit que la situation commence à se dégrader. Les vagues sont énormes, le moteur ne fonctionne plus depuis plusieurs heures, le bateau pneumatique dérive au large des côtes libyennes et se remplit d'eau qu'il faut écoper sans cesse. Seules les lumières d'une plateforme pétrolière éclairent la nuit noire, certains passagers ont des hallucinations.
Il disait « je vais marcher, me mettre debout et monter dans la voiture ». Il délirait, mais à ce moment-là, personne n'était mort encore.
Ali a 17 ans lors du voyage. Il est gambien. Cette traversée, dit-il, c'est son premier face-à-face avec la mort. Dès le deuxième jour, il n'y a plus rien à manger et de l'eau de mer comme seule boisson. À partir du quatrième jour, les morts s'accélèrent.
Certains sautaient dans l'eau, mais c'était eux qui voulaient le faire. Personne ne les a jetés. Parfois, ils voyaient un bateau au loin et sautaient à l'eau pour le rejoindre.
À quelques mètres de lui, de l'autre côté du bateau, Moudou, 21 ans, reste lui uniquement concentré sur son objectif, atteindre l'Europe. C'est la deuxième fois qu'il tente de monter à bord d'un bateau après que le premier a coulé à quelques mètres de la plage du départ en Libye.
Deuxième fois,
j'ai subi beaucoup de tortures, beaucoup de problèmes. Alors ce qui fait que au deuxième tentative, il fallait que je parte.
Comme Ali, il essaie de ne pas dormir ou le moins possible et de ne penser qu'à rester en vie.
Moi j'ai eu un vécu très difficile. J'ai vécu en Casamance au Sénégal dans la zone la plus difficile. À 5 ans, je me suis débarrassé de ma mère. J'ai toujours travaillé seul, voilà, donc cette force-là m'a donné cette énergie.
Au total, 23 personnes ont survécu, des Gambiens, Maliens et Sénégalais. Ils vivent aujourd'hui en Italie, où ils attendent leurs papiers, et pour l'un d'entre eux en Espagne. Tous ont refusé de reparler de ce voyage et ont demandé à Moudou de parler en leur nom à tous.
La partie la plus importante pour lui, c'est de raconter vraiment la situation de tous ceux qui sont perdus en mer, qui sont morts, qui ne sont pas arrivés. C'est des personnes qui étaient vraiment chargées d'une mission, d'un objectif, pour apporter espérance à leur famille et tout. Et malgré tout ça, ils ne sont pas arrivés.
En 2024, au moins 2475 personnes migrantes sont mortes en Méditerranée et plus de 500 depuis le début de l'année. Cécile Debarge, Ancône, RFI.
Un reportage à réécouter en version enrichie ce soir dans l'émission Accent d'Europe ou quand vous le voulez.
Couleur tropicale, Claudie Ciard.
Ce jeudi, nous reviendrons sur l'aventure Milli Vanilli. En 1988, c'est l'un des plus célèbres groupes du monde avant que l'on apprenne que les chanteurs ne sont que des figurants. À la faveur du film Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar, nous recevons Fab Morvan de Milli Vanilli et Elan Ben Ali, l'un des acteurs du film.
Couleur tropicale avec Claudie Ciard.
Du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU.
RFI.